Bonjour et bienvenue sur Radio Cessort, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du samedi 26 octobre 2024. Je suis Marc-Frédéric Gomez en direct de l'Indre. Vous trouverez dans la description tous les liens qui m'ont permis de créer cette revue d'actualité. Au programme aujourd'hui, je ferai un focus sur les récentes cybermenaces ciblant l'Ukraine, notamment une campagne sophistiquée utilisant des scripts PowerShell pour exfiltrer des données sensibles via des fichiers RDP. Nous terminerons cet épisode avec quelques conseils essentiels pour durcir vos serveurs Linux face aux cybermenaces en suivant les meilleures pratiques publiées par Linux Journal. Dans le cadre des récentes menaces cyber, le CERTUA a identifié une campagne ciblant les institutions gouvernementales et des secteurs stratégiques de l'Ukraine à travers des fichiers de configuration RDP malveillants. Ces fichiers, diffusés par des courriels, se faisant passer pour des communications liées à des services tels que Amazon et Microsoft, contiennent des scripts de configuration .rdp. Pour rappel, le RDP, c'est le Remote Desktop Protocol. Lors de leur exécution, ces fichiers établissent une connexion RDP avec des serveurs contrôlés par des attaquants, permettant non seulement l'accès aux ressources locales, disques, imprimantes, ports, USB, du système de la victime, mais aussi potentiellement l'exécution de logiciels ou de scripts malveillants à distance. Mais rentrons dans l'analyse technique. Le fichier .rdp utilisé dans cette attaque sont spécifiquement configurés pour transférer de nombreuses ressources locales aux serveurs distants, élargissant ainsi la surface d'attaque. Les attaquants peuvent exploiter ces connexions pour exécuter des actions malveillantes telles que le déclenchement de logiciels ou de scripts sur la machine compromise, compromettant l'intégrité des réseaux internes. Le CERTUA a pu retracer l'infrastructure de ces attaques et la préparation associée qui remonte au mois d'août 2024, avec des adresses IP et des noms de domaine identifiés dans différentes régions, renforçant ainsi la portée mondiale de cette menace. Alors, comment mettre en œuvre des mesures de protection? Pour atténuer les risques, il y a des petits tips qui sont assez simples. C'est le blocage des fichiers .rdp au niveau des passerelles de messagerie pour éviter leur transmission. La restriction d'exécution des fichiers RDP sur les postes des utilisateurs finaux. Le paramétrage de pare-feu pour limiter les connexions RDP sortantes via l'application mstc.exe. La mise en place de politiques de groupe pour désactiver la redirection des ressources via des sessions RDP. Ce qui est intéressant dans cet article, c'est que le CERTUA a mis à disposition des indicateurs de compromission sur son site, qui va inclure une liste d'IP, de noms de domaines associés à cette campagne, un suivi de l'activité réseau associée à ces indicateurs, ainsi qu'une analyse très complète sur le port 3389 TCP. Donc c'est assez sympa à lire. En résumé, cette campagne illustre une attaque sophistiquée exploitant les configurations RDP pour compromettre les réseaux d'institutions critiques. Donc il est crucial pour nous, équipe de réponse à incidents, que ce soit aussi bien un CERT qu'un CERT, c'est vraiment de renforcer cette politique de gestion des connexions à distance et de surveiller attentivement les indicateurs de compromission liés à ces activités malveillantes. C'est gratuit, ça vous permet de monter en maturité, ça va aussi vous permettre de tester vos protocoles de défense. Est-ce qu'un utilisateur peut faire du RDP alors qu'il n'est pas autorisé? Est-ce que c'est normal, par exemple, que quelqu'un qui bosse dans un service bureautique puisse faire du RDP à distance à l'extérieur? Continuons sur l'Ukraine. Le 24 octobre 2024, le CERT national a révélé une nouvelle menace liée au groupe UAC0218 exploitant des fichiers rares contenant des scripts malveillants pour voler des documents critiques. Les emails frauduleux avec des sujets tels que factures et coordonnées bancaires contiennent des archives rares protégées par mot de passe avec des documents factices et un script malveillant est introduit. Ce dernier est conçu pour rechercher de manière récursive des fichiers spécifiques tels que des .xls, donc des fichiers Excel, des .doc, des .pdf, etc. Dans le répertoire utilisateur, et les exfiltrer vers des serveurs contrôlés par les attaquants via le protocole HTTP. Ce script malveillant, VBS, recherche des fichiers sensibles jusqu'à 5 sous-dossiers à partir de la racine utilisateur. Ça vous rappelle quelque chose? Je pense que pour ceux qui suivent le podcast, ils se disent « Tiens, il nous a déjà parlé de ça ». Donc c'est une autre variante, ils vont utiliser des commandes PowerShell, l'infrastructure de commande et de contrôle repose sur un nom de domaine enregistré via HostZialot, avec un serveur web basé sur Python, identifiable par la bannière Python Software Foundation, base HTTP 0.6. Donc les recommandations pour nous, équipe de cybersécurité, c'est d'examiner les journaux de connexion du réseau, surveiller l'activité via les adresses IP et domaines identifiés, tout en bloquant les extensions .vbe et en renforçant les contrôles d'accès pour éviter de telles attaques. C'est une menace qui est active depuis août 2024. Comme vous pouvez le constater, on est du reuse. On va réutiliser quelque chose qui marche, on va juste modifier quelques éléments techniques, mais la base est toujours la même. On envoie un mail, une pièce jointe, et on fait cliquer l'utilisateur. Je vous recommande l'article, il y a énormément d'IOC disponibles gratuitement pour ceux qui souhaitent s'intéresser à ce type de menace. Continuons sur les menaces remontées par le CERTUA. Le 25 octobre, donc on était au 24, on passe au 25, celui-ci a relevé une campagne malveillante associée au groupe UAC 0001 ou APT28. Cette attaque exploite des emails envoyés aux administrations locales avec des sujets trompeurs tels que remplacement de tableau. Remplacement de tableau, c'est pour les fichiers Excel. Les emails contiennent un lien prétendant renvoyer vers un document Google, mais lorsqu'il l'utilisateur clique sur le reCAPTCHA factice, une commande PowerShell est copiée dans le presse-papier de l'utilisateur à son insu. L'attaquant pousse ensuite l'utilisateur à exécuter cette commande en le suggérant d'utiliser des raccourcis clavier tels que la touche Windows plus R ou Ctrl V, conduisant à l'exécution du script malveillant. Quand on regarde l'analyse technique, qui est relativement simple, c'est une commande PowerShell qui va être téléchargée, elle va exécuter un fichier .hta, ainsi qu'un script PowerShell nommé browser.ps1. Ce dernier a plusieurs fonctions malveillantes. Exfiltration des données avec l'authentification des navigateurs si vous êtes sur Chrome, Edge, Firefox ou Opera. Installation d'outils tels que SSH pour créer un tunnel sécurisé. Déploiement de l'outil Metasploit pour exploiter des vulnérabilités supplémentaires. De plus, cette campagne réutilise des infrastructures compromises déjà observées dans d'autres attaques, telles que le serveur mail.zhblz.com, impliqué dans des attaques similaires en septembre 2024 que nous avions déjà évoquées sur Radio CSERT. Le point que je remonte, chères auditrices et chers auditeurs, les investigations de ce type de groupe d'attaquants n'est jamais perdue. Si vous avez bossé sur le sujet en septembre ou au mois d'août, vous allez voir qu'ils réutilisent les mêmes TTPs. Vous allez avoir des IOC communes, vous allez avoir tout votre système de détection, si vous avez travaillé dessus, il va resservir. Et vous allez monter votre niveau de sécurité et ce type de menace ne sera plus dans votre périmètre. Gros avantage, le CERT UA sur les trois articles que j'ai repris, il donne énormément d'indicateurs de compromission, ainsi que des signatures des hashes et tout le net method. Donc pas mal, bravo. Une fois de plus, ce type d'attaque souligne une importance majeure sur l'hygiène numérique, en particulier sur la manipulation des fichiers PowerShell et des liens d'apparence légitime. Finissons cette revue d'actualité par cet article du Linux Journal. Là, je vous cache pas, je me suis fait plaisir. On est samedi, c'est l'article qui vraiment me donne envie de faire de la cyber quand même. George Whittaker propose une approche détaillée pour durcir des serveurs Linux face aux menaces et aux attaques en détaillant des mesures essentielles à adopter pour assurer une meilleure sécurité. Comment dirais-je ? C'est juste le bon niveau. Cet article fait deux pages. C'est ça l'avantage. Mais en deux pages, vous devenez vraiment au bon niveau de maturité pour durcir votre serveur Linux. La première partie, c'est la compréhension de la menace. Il va identifier plusieurs types de menaces, y compris des attaques par brute force, les rootkits, les logiciels malveillants, les attaques par déni de service et les vulnérabilités zéro day. À partir de là, il va prioriser les actions de protection. Par exemple, pour la gestion des utilisateurs et des accès. Éviter l'accès direct en tant que root, utiliser un compte de privilège avec sudo, revue régulière des comptes utilisateurs, durcissement SSH, désactivation de l'accès root via SSH, mise en place de l'authentification par clé publique et des règles de pare-feu pour restreindre les connexions SSH à des IP spécifiques, du filtrage, mise à jour et gestion des correctifs, les fameuses vulnes, activer les mises à jour automatiques avec des outils comme Unattended Upgrades pour Debian ou Yumcron pour CentOS. Scanner les vulnérabilités régulièrement avec des outils comme Linis ou OpenVAS pour détecter des faiblesses potentielles. La configuration du réseau du pare-feu. Désactiver les ports et services inutilisés. Utiliser IPTable ou Firewall pour configurer des règles de pare-feu strictes bloquant tout le trafic non essentiel. Ça peut sembler surprenant, mais en quelques commandes, vous allez mettre un niveau de, j'irais pas de complexité, d'emmerdement maximum pour les attaquants. Donc, ils vont lâcher l'affaire. Ils vont dire, bon, celui-là, on va laisser. Il a fait de la protection. C'est trop compliqué. Et puis vient la configuration, ce que j'appelle sécuriser des serveurs web, que ce soit Apache ou Nginx, en limitant les permissions sur des répertoires. Ça peut sembler surprenant le nombre de sites que l'on constate qui sont installés par défaut. Et tout ça, c'est pas protégé par défaut. L'utilisation d'un WAF, ça, c'est troll day. C'est mon côté que j'aime bien. Alors, est-ce qu'un WAF, c'est de la cybersécurité? Parce que, ne pas avoir de WAF, c'est quand même hyper hyper tendu. Et il faut savoir que dans plein de solutions métiers, il y a que le WAF qui peut vraiment vous aider. On active le mode security, ça permet de surveiller toutes les requêtes. On fait le durcissement ensuite des bases de données. On les restreint à des adresses IP qui sont de confiance. On chiffre les données sensibles, ça c'est le minima. Mais surtout, on chiffre les données à froid. C'est-à-dire que votre serveur a démarré, vous avez déchiffré votre volume où il y a la base de données, c'est pas pour ça qu'elle est protégée. Donc, il faut chiffrer les données et uniquement les déchiffrer au moment de leur accès. Ensuite, audit, surveillance et journalisation. Activer SysLogD ou JournalD. Utiliser des outils comme Fail2Ban, AuditD pour configurer des règles d'audit et surveiller l'accès aux fichiers sensibles. Chiffrer CD. Aujourd'hui, avec Lux, il n'y a aucune raison de pas chiffrer un disque. En plus, il y a des avantages sur Lux. Vous pouvez même chiffrer vos disques sur vos serveurs à distance. Il y a des commandes pour vous permettre et des protocoles pour vous permettre de déchiffrer les disques à distance via des réseaux d'administration. Ça marche hyper bien, quoi. Et enfin, le huitième, je dirais, ce que j'appelle le huitième conseil et peut-être le plus intéressant, c'est le plan de réponse aux incidents. C'est mettre en place un plan de réponse aux incidents avec des rôles et des responsabilités. Si vous avez déjà juste cette partie-là, vous êtes presque sauvé. Alors, bien entendu, il faut qu'il y ait des sauvegardes automatisées, mais rien de plus simple avec un AirSync et de tester ensuite votre sauvegarde pour vous dire « Ok, j'ai un niveau de confiance qui commence à être bon ». Ce que j'ai apprécié dans cet article, c'est actionnable, c'est facile à implémenter, ça demande pas, en dehors du temps et de l'admin SIS, ça demande pas grand-chose, c'est vraiment une bonne base. Personnellement, j'adore, quoi. Si la majorité des administrateurs Linux faisaient ça, je crois que mon salaire, il baisserait. Non, je vais peut-être le couper, ça. Non, continuez, les gars. Installez vos Linux, comme ils vous faites, comme d'habitude. Moi, ça me fait bien, ça me fait gagner ma vie. Faites-vous poncer, les gars. Et voilà, ce podcast de Radio Sessor du samedi 26 octobre 2024 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. Il fait un temps gris dans l'Inde, c'est une catastrophe, quoi. C'est l'hiver, quoi. On n'a même pas eu un état indien. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans les prochaines émissions, laissez-moi un message sur mon répondeur au 07 68 72 20 09. Je suis là pour vous. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. Et durcissez vos serveurs Linux, s'il vous plaît, messieurs et mesdames.